Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très contente, on est toujours en session à Bordeaux et on accueille, on est déjà tout autour de la table pour tout dire. Alexandra, bienvenue.
Merci.
Au micro de Salut, ça va. Et Mathilde qui est toujours à mes côtés.
Toujours.
Ouais, je ne vais pas changer en route entre deux
Moi,
épisodes.
Moi j'espère pas.
Non, jamais. bienvenue Alexandra, est-ce que tu peux pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore te présenter pour qu'on sache qui tu es, la question de la présentation.
Merci, bonjour les filles, merci pour l'accueil. Alors moi je m'appelle Alexandra Fleurisson à l'état civil, j'ai 36 ans.
Oui. Tu es notre aînée. Ouais. Tu es notre aînée.
Effectivement. Donc moi, je suis créatrice de contenu, influenceuse, consultante social média. Donc, c'est les trois casquettes principales de mon activité et ça fait maintenant 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je travaille dans le monde des internets. Je vis à Bordeaux depuis 2014. Que dire de plus, ça c'est sur l'aspect biographique professionnel. Je ne sais pas, c'est un petit peu compliqué.
Trois adjectifs qui te définissent autant dans, je sais pas, ton caractère. Tu vois que là, on n'entend que la voix. Donc peut-être que les personnes s'imaginent ta personnalité, comment tu es, tout ça. Donc qu'est-ce que tu dirais en adjectif pour te définir?
Trois qualificatifs définissants, je dirais d'abord enjoué, parce que ça c'est une qualité que je me reconnais volontiers, extrêmement positive. Mine de rien, c'est vrai que je compte davantage les jours sans que les jours avec.
Ah ouais.
Ouais, c'est mon fameux syndrome du verre à moitié plein, toujours. Je dirais aussi, alors ça va être calculé. C'est la fameuse qualité un peu défaut, c'est que j'ai un côté très têtu et obstiné qui des fois fait que je manque un peu de souplesse sous certains aspects pour certaines choses.
Ouais, c'est un bon premier descriptif, alors même si on ne se connaît pas intimement, mais ça donne déjà des contours de personnalité qu'on va explorer dans cet épisode. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu parles notamment pas mal de body positive, alors c'est un mot qui est très galvaudé en ce moment, mais en tout cas tu parles, je trouve, d'acceptation de soi, et c'est comme ça que moi j'ai trouvé ton compte, parce que je faisais un tri intense dans mes abonnements et j'avais besoin de représentations de femmes qui collaient plus à ma réalité et à la diversité de ce qu'on a envie de voir aussi sur les réseaux. Comment est-ce que toi tu définis ce terme body positive, justement?
Alors, je rebondis justement sur ce que tu as dit, et à juste titre, je suis d'accord, le terme est complètement galvaudé, parce que je ne vais pas trop digresser sur la question, mais pour moi, le body positive, initialement, c'est un concept qui est totalement politique et militant. Si on en revient à son acceptation première, alors ça remonte, il faut faire un petit peu d'histoire du militantisme. C'est un concept qui est avant tout américain, puisque né aux États-Unis, dans les années, si ma mémoire est bonne, 60-70. Et à la base, il était porté par les minorités ethniques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, se dire que le terme est totalement devenu une espèce de chose marketée, qu'on met à n'importe quelle sauce, le pire étant quand il est repris par des marques qui n'ont absolument pas le comportement qui va en adéquation avec ce que ça signifie profondément. Frôle le bullshit, comme on dit. C'est vrai que je l'utilise plus parce que je me suis déjà beaucoup documentée là-dessus. Parce que je le reconnais, au départ, j'avais pas vraiment complètement compris les contours. Et à force, je pense qu'il faut se documenter toujours les choses et sur les causes qu'on veut porter, parce que des fois, on se rend compte qu'on fait fausse route, mais c'était totalement involontaire parce qu'on était porté par une espèce de mouvement et aussi par le souci de bien faire. Et quand j'ai compris qu'effectivement, il était absolument malhonnête intellectuellement de porter l'étiquette d'une cause qui n'était pas la mienne, j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser déjà en hashtag, et puis après d'arrêter tout simplement de me poser comme une militante body positive, parce que pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Certes, en revanche, à côté de ça, je suis volontiers dans l'idée de prôner une acceptation totale de soi. Je dirais que je suis davantage dans le combat pour diffuser le combat pour l'estime de soi.
Ouais.
Pour moi, c'est peut-être l'étiquette que je retiens, parce qu'il y a tellement de travail à faire là-dessus. Ça dépasse les considérations liées à la silhouette, à la morphologie. On peut y entendre les considérations liées au handicap, liées aux maladies lourdes, aux pathologies longues, liées aussi à l'ethnicité, liées à l'âge.
Ouais,
parce que moi, je me rends la représentation. Liées au genre aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà.
À l'inclusivité.
L'inclusivité sous toutes ses formes.
Exactement.
Et elle ne s'entend pas toujours sous l'égide de la taille de vêtements qu'on porte. Parce que souvent, et là, c'est réduit à ça. Alors que c'est absolument... Ça ne se résume pas qu'à ça.
Non, je pense que tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, j'y vois moi quand même du positif, dans le sens où ça a quand même ouvert le débat.
Exactement.
Et permis notamment rien que d'apporter le sujet en fait.
Oui.
Et donner la possibilité aujourd'hui de s'exprimer et d'avoir une légitimité de personnes dont on n'avait pas du tout la voix en fait, on n'avait pas du tout connaissance de leur existence. C'est terrible, mais il y avait une invisibilisation de toute une partie de la population. Et je pense qu'en tant que femme aussi, notamment très jeune, on est confronté quand même à notre corps, à l'hypersexualisation des corps, même entre femmes, même au regard de la société. Enfin, il y a vraiment ce truc-là où on est à un moment donné soit face à ces complexes, soit face à ces différences, en tout cas ce qu'on pointe comme différent. Et je trouve quand même que quand on allume son téléphone, qu'on va sur les réseaux sociaux et qu'il y a à un moment donné des personnes qui prennent la parole d'une façon ou d'une autre, justement sur cette acceptation et sur cette possibilité de dire... aujourd'hui, ce n'est pas ton physique ou peu importe ton histoire ou la façon dont ça marque ton corps ou qui tu es qui va t'empêcher d'exister, d'être, d'engager quelque chose. Et je pense
Ta valeur ne réside pas là-dedans, en fait.
Oui. Oui, et en plus, moi, j'y vois aussi... Alors, c'est pas forcément simple à faire passer par l'image, parce que Instagram, pour ne parler que de ce réseau-là, on va dire, est le royaume de l'image. Moi, ce qui m'intéresse, et ça passe par la diversité des sujets que j'aborde, notamment dans le contexte lifestyle, rappeler aussi qu'on n'est pas qu'une représentation physique. Moi, ça m'intéresse aussi de prôner l'idée, parce que je parle de ce qui m'intéresse intellectuellement parlant. Moi, j'avoue, et pour moi, c'est pas forcément défaut, je suis une femme qui intellectualise pas mal de choses, parce que alors, je ne prétends pas être une intellectuelle, évidemment, mais je m'intéresse à énormément de choses qui relèvent de l'intellectuel. Je me questionne énormément sur le monde qui m'entoure, sur la société, et j'hésite pas à partager ça avec ma communauté. Alors évidemment, je vais surtout partager les sujets que je considère comme étant intéressants pour le plus grand nombre. Donc ça va surtout être des choses qui relèvent de l'histoire de la mode, de l'histoire du féminisme par exemple, de l'histoire du cinéma que j'aime beaucoup aussi parce que je partage, c'est un contenu qui est phare chez moi. Je suis cinéphile donc je partage beaucoup de débriefs ciné, je partage aussi mes lectures, que ce soit de la littérature ou des choses plus pratiques ou plus documentaires. Donc moi ça m'intéresse aussi d'aborder ce genre de choses, c'est-à-dire qu'au final on peut tout être. Si on en vit, on peut être une belle femme, on peut faire très attention à son physique, mais on n'est pas nécessairement la dernière des cruches. C'est-à-dire qu'on peut être une femme qui est très sensible à son sex appeal, mais en même temps ne pas rechigner à ouvrir un livre et tous les soirs, en fait,
à
tourner quelques pages d'un bouquin. Mmh. J'ai l'impression des fois que les réseaux sociaux amènent à l'image d'une image très manichéenne des femmes. Alors même qu'on est en 2022, que les choses sont censées avoir un petit peu évolué, et que nécessairement, quand on est un peu intellectuel, on est au passage, alors c'est un petit peu trivial hein, ce que je veux dire, mais si on est intellectuel, on est un petit peu moche sur les bords. Moi, je sens des fois qu'il y a un petit peu de ça, hein, et qu'il faut en faire des caisses pour toujours essayer de se positionner comme étant légitime sur les sujets.
De toute façon, quand on est une femme, il faut toujours en faire plus et toujours en faire des caisses pour être plus entendue, pour être valorisée à même hauteur.
Tu as tout à fait raison et ça, je trouve que ça rejoint... tu parlais du cinéma et j'avais une réflexion avec mon mari il y a quelques temps, qui est lui aussi très cinéphile, et qui me disait, je trouve ça fou parce que bon, oui, il est très très engagé et je le considère assez éclairé sur la question, mais il me disait, dans beaucoup de films et d'histoires en général, un homme peut être toutefois banal et avoir une place très importante dans une histoire. Et les femmes héroïnes sont souvent des super women ou des super héroïnes. Elles ont besoin et elles ont une vie qui est un peu incroyable avec cette espèce de multicasquette où elles gèrent tout, où il y a ce côté... waouh, pour pouvoir avoir une place, en fait, on va dire, égale en termes de visibilité à un homme qui se contente, entre guillemets, voilà, d'être. Et je trouve que ouais, tu te dis assez bien sur les réseaux. Parfois, on se dit que notre seule voix, et ça a été pendant longtemps, hein, moi, je suis sur YouTube depuis 10 ans, et au début... dont les femmes ne parlaient que de beauté et de mode. Mmh. Et j'en ai fait partie, hein, je regrette pas du tout, mais les femmes qui, je pense à Natou, Andy Raconte, qui ont commencé à faire de l'humour, mais c'était, elles se prenaient des trucs hallucinants dans la tête et des réflexions complètement sexistes et très centrées justement sur le corps, etc. Alors que leurs homonymes masculins, pas du tout. Donc je pense qu'il y a, comme tu disais, il y a une vraie représentation au niveau de la société, de l'évolution aussi des mentalités qui se traduit par le contenu sur les réseaux. Mmh. Et aujourd'hui, que tu as la possibilité de parler de mode, de parler de quelque chose qu'on peut considérer comme superficiel, l'apparence, etc., tout en parlant de sujets intellectuels, c'est un positionnement que je trouve militant d'une certaine façon, parce que tu dis c'est possible en fait. Je n'ai pas à choisir entre prendre soin de moi, aimer la mode, prendre soin de mon apparence et avoir envie de me cultiver, d'exister, de m'engager sur certains sujets. Et je pense que c'est aussi un message qu'on essaye de faire passer, c'est vous avez le droit d'être qui vous souhaitez être.
Et que votre valeur, elle réside dans beaucoup de choses, mais certainement pas dans votre apparence, enfin dans l'apparence physique, quoi.
En tout cas, le regard que les gens portent sur votre apparence.
Oui, clairement.
C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous pouvez totalement l'incarner. Et je pense que la mode peut être un sujet complètement passionnant, comme beaucoup de personnes se passionnent sur ces sujets.
Toi, la mode, ça t'a aidé. Ça, c'est quelque chose qui a pu t'aider à un moment donné.
Ah oui, ça m'a aidé depuis toujours. Alors moi, la mode, je considérais même, parce que là, finalement, moi, je vais vous parler de souvenirs de 30 ans, hein, puisque j'en ai 36. Alors, c'est vrai que quand je dis ça comme ça, c'est toujours hyper impressionnant, mais c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'être une ancêtre. J'ai traversé 5 décennies. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est 5 décennies. C'est-à-dire qu'en fait, selon l'année où vous êtes né, vous comptez, ça vous permet en fait j'ai traversé 5 décennies. C'est-à-dire que je suis née en 1985, donc j'ai connu la décennie 80. J'ai connu la décennie 1990. J'ai connu la décennie 2000. J'ai connu la décennie 2010. Et j'ai connu la décennie 2020, puisque nous sommes en 2022. Donc, objectivement, j'ai traversé déjà 5 décennies. Cependant, je n'ai pas 50 ans, je n'ai que 36 ans. mais tout le monde peut le faire, hein, c'est assez impressionnant quand on fait le calcul d'ailleurs. Et quand on lit ça comme ça, on se dit, oula, mais c'est une blague. Non, c'est vrai.
Le faire dans la tête, 90, j'en ai 4.
Non, ça fait 4.
Ça fait 4.
Si t'es né dans les années 90, ça fait 4.
Ouais.
Moi, la mode, les plus vieux souvenirs que j'en ai, ils remontent à la toute petite enfance. Je ne saurais dire pourquoi. Je crois que des fois, il y a des choses, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi moi, j'ai aimé la mode? Pourquoi? Parce qu'on était une fratrie de 3. Pourquoi est-ce que ma sœur ou mon frère ont aimé autre chose? J'en ai aucune idée. Moi, c'est venu très tôt. J'avais une grand-mère qui, par passe-temps, cousait beaucoup. Alors d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que je m'intéresse aussi beaucoup, alors ça relève de la sociologie, mais à tous ces usages et à toutes ces habitudes qui ne sont pas transgénérationnelles, mais qui sautent des générations. Mmh. Et c'est le cas, par exemple, des travaux manuels, qu'on appelle aujourd'hui « do it yourself », ou le retour d'ailleurs au fait de faire les choses soi-même, faire de l'upcycling, parce que nos grand-mères n'appelaient pas ça comme ça. Hein.
Ouais,
c'était juste de la récupération, après tout. Ma grand-mère faisait ça, à récupérer des tissus à droite à gauche, souvent les vêtements trop grands du fils de la voisine, et puis, ou alors des tissus d'ameublement, et elle faisait des vêtements. Mais c'était... plus par souci de bon sens plutôt que par souci de nécessité économique, parce que mes grands-parents étaient des personnes issues d'un milieu ouvrier paysan, donc pas désargentés mais pas non plus extrêmement riches. Mais voilà, dans la France des années 70-80, ils vivaient correctement, comme beaucoup de gens qui vivaient en banlieue d'une grande ville. Parce que moi, j'ai grandi dans le département de la Charente-Maritime, donc au nord de la Gironde, on est dans le département 33. La Rochelle, en fait, pour la faire courte, qui est la ville où j'ai passé mon enfance. Et cette grand-mère cousait beaucoup pour le plaisir, cousait pour les enfants, ses petits-enfants, les enfants du voisinage. Et un jour, je me suis pris de passion pour... J'observais beaucoup. en fait. Je voyais qu'elle faisait de ces trucs, elle faisait des vêtements assez drôles parce que du coup, comme c'était de la récup, des fois... Enfin, aujourd'hui, on dirait la direction artistique était un petit peu spéciale, mais voilà, c'était, ça dépannait. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait ? Mais j'étais vraiment pas très vieille. Hein. Je devais peut-être avoir 5, 6, 7 ans par là. Et elle me montre comment on fait, comme on dit, une jupe minute, ce qui est extrêmement rapide à faire. Hein. C'est une jupe patineuse. On coupe deux morceaux de tissu, un passant pour l'élastique, on fronce et puis ça fait une jupe. Et normalement, quand on est assez doué, on peut faire ça en moins de 5 minutes. Donc c'est très rapide. Et j'avais l'impression d'avoir réalisé un truc juste extraordinaire, alors qu'objectivement, c'était pas grand-chose. Et c'est là que j'ai commencé à cette fringue à la customiser. Enfin, je dis customiser aujourd'hui, mais à l'époque, j'aurais pas utilisé ce terme-là parce que je l'avais pas en tête. J'ai accroché des boutons, enfin, j'ai fait des tas de trucs. Et c'est là où j'ai pris conscience que les vêtements, en tout cas le fait de m'habiller, il y avait quelque chose d'extrêmement... c'était plus que quelque chose d'intuitif. Enfin, c'était de l'instinct, c'était du cérémonial, c'était, en tout cas, ça avait beaucoup d'importance, beaucoup beaucoup d'importance. Finalement, mon histoire personnelle et mon rapport aux vêtements, ça a clairement affirmé ce qui s'était passé quand j'étais petite, c'est qu'en fait ensuite m'habiller était un jeu. Donc bien sûr, quand on est ado, on fait là encore des choix très, très, très hasardeux. Mais ensuite, dès que je pouvais, quand j'étais jeune, je pense que je m'habillais davantage pour qu'on me voie, davantage pour qu'on s'interroge. Pour moi, l'habillement, c'était pas forcément... Et ça l'est pas encore. Hein. Aujourd'hui, moi, je m'habille pas juste pour ne pas être nue. Hein. Le vêtement, ça en dit beaucoup sur les gens. Et aujourd'hui, le vêtement est un langage.
Ouais, ça participe. Justement, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, l'acceptation de soi, etc. Quels ont été tes outils ? Est-ce que ça a trouvé une place dans cet équilibre, peut-être, entre ta relation à toi-même, à ton corps ? Ouais, est-ce que ça a été vecteur de quelque chose de positif, tu vois, dans la relation ? Parce que souvent, quand on est ado... qu'on a le corps qui évolue, tout ça. Je trouve qu'on peut se chercher aussi vestimentairement parlant, mais on peut être peut-être plus critique face à soi-même, face à ce qui nous va, on est plus attentif peut-être au regard des autres. Est-ce que toi, ça a été le cas ou pas du tout ? Est-ce que tu as toujours une relation très sereine avec ton apparence et...
Alors, en fait, les choses se sont passées un petit peu à double vitesse. C'est-à-dire que j'ai eu une relation sereine avec mon corps. Hein, j'entends bien avec mon corps. La relation sereine avec mon corps, je l'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. En revanche, la relation avec mon apparence globale, c'était complètement différent. Et c'est là qu'encore aujourd'hui, je m'interroge parce que pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Moi, je considère aujourd'hui, avec le recul, que j'ai une relation totalement sereine avec mon corps à partir de l'âge de 30 ans, ce qui fait que ce n'est pas si vieux que ça. Mais parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses, des éléments déclencheurs dans ma vie personnelle qui m'ont fait beaucoup réfléchir et surtout qui m'ont fait prendre du recul sur des choses que je considérais comme étant des points bloquants qui finalement n'en étaient pas. Alors moi, j'ai eu un cheminement d'acceptation de moi quand j'étais enfant et adolescente un petit peu spécial. C'est que j'ai eu la chance, je considère que c'est une chance, mais à l'époque, ça pouvait être un petit peu pénible. J'ai eu une croissance très longue. J'ai eu ma puberté tard, ce qui fait que j'ai grandi jusqu'à ce que j'ai ma puberté. Donc finalement, je suis une femme plutôt grande. Je mesure 1m72, bon, ce qui non plus est pas... Je suis pas géante, hein, mais je suis un petit peu au-dessus de la moyenne des femmes françaises. Alors que ma fratrie, ma sœur et mon frère, par exemple, ont leur puberté très tôt et ils sont plutôt petits. Ils sont plutôt dans la moyenne basse. Et le truc assez marrant aussi, c'est que mes parents sont des personnes plutôt de petite taille. Et dans ma famille, je suis la seule personne qui fait ma taille. Au départ, c'est pas forcément simple à vivre parce que à l'âge de 10 ans, je faisais presque ma taille adulte.
Ouais. Je connais ça.
Donc c'est pas simple. Bien sûr, mon corps, j'ai commencé à avoir un corps de jeune femme assez tôt. J'étais encore au collège que je ressemblais à une petite femme, hein. Et ça on n'en a pas conscience parce que moi dans ma tête, j'étais une petite fille et il m'est arrivé des choses, alors, pas grave bien sûr. Mais parce que je pense que les gens, enfin en tout cas avec lesquels ça s'est produit, ont quand même eu conscience qu'il y avait un problème. Et là encore, je vous raconte l'anecdote, mais j'ai essayé d'être très rapide. Un été, donc je devais avoir 13 ans, hein. On part en camping en été avec mes parents. On était dans le Lot-et-Garonne, donc dans le sud-ouest. Et au camping, il y a un groupe de jeunes on se rencontre à la piscine. Alors moi, j'avais la charge de surveiller mon frère et ma sœur, parce qu'en plus de ça, cette année-là, je m'étais blessée à la main, donc j'avais interdiction d'aller à la piscine, mais ça tombait bien pour mes parents, donc je surveillais mon frère et ma sœur. J'étais ravie. Hein. je les surveille, et puis finalement, à la piscine, il y avait ces jeunes-là, qui eux aussi, sans doute, étaient en vacances avec leurs parents, donc au bout d'un moment, on commençait à discuter. Et puis, je me rends compte qu'il y avait 3 filles et un garçon. Et je me rends compte, au bout d'un certain temps, qu'il y a un des 3 garçons qui me regarde d'une manière étrange. À l'époque, c'est ce que je me dis. Je n'avais pas du tout perçu, hein, j'y étais pas. Et puis, bon, on se revoit tous les jours à la piscine. Et puis un jour, il me propose, tiens, est-ce que ça te dirait un soir, qu'on... il y avait un lac dans le camping, est-ce que ça te dirait qu'on aille faire le tour du lac? Bon, je dis, pourquoi pas? Donc on avait nos vélos, donc c'était pas très compliqué de se retrouver. Et moi, j'arrive le soir à l'heure dite. Et là, je trouve pas le groupe, je trouve le type, tout seul, le garçon.
Mmh. Là, à 13 ans, on n'a pas forcément confiance. Donc là,
je dis, moi, naïve, hein. Mais où sont les autres? Mais vraiment, mais j'y étais pas du tout. C'est-à-dire que, mais je t'assure, c'est... Alors aujourd'hui, évidemment, avec le recul, je serais beaucoup plus lucide. J'avais 13 ans. Mmh. J'avais 13 ans et surtout, j'étais dans un contexte où mes parents ne m'avaient pas du tout initiée à tout ça. En plus de ça, moi, j'ai eu une enfance, une éducation plutôt rigide, très, très rigide, avec un père qui était clairement, disons, appelons un chat, hein. Moi, j'ai vécu une enfance maltraitante avec un père qui était extrêmement dur et surtout sur ces questions-là. Donc l'idée de me faire draguer par un garçon, alors bien sûr j'en ai pas parlé à mes parents parce que je pense que je me serais fait vraiment punir, et plus que punir parce que les punitions chez mon père ça passait par la violence, mais clairement il fallait pas en parler. Donc bon, j'y suis allée, et en fait clairement lui le garçon il était venu pour une seule et même chose, il voulait clairement me, enfin je sais pas, je pense qu'il avait prévu peut-être qu'on sorte ensemble, enfin bref je sais pas quel plan il avait derrière la tête. Mais on se balade, et puis moi, toute naïve, 13 ans, voilà, on discute. Alors, ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que je pense que, du coup, j'avais une maturité de corps, mais je devais avoir une forme de maturité de l'esprit, parce que bah, il m'a pas trouvée si inintéressante que ça, au final. Parce qu'on discutait de plein de choses. Hein.
Il avait quel âge, tu savais,
Et je l'ai su après quel âge il avait. Et sauf qu'il me pose une question, il me dit « Alors, t'es dans quel lycée à la rentrée ?» Et je lui dis « Mais non, mais moi, à la rentrée, je rentre en 4e. »
Ah ouais.
Et là, je l'ai vu, mais il a changé de couleur. Il m'a dit, mais t'as quel âge? Et je lui dis, bah, j'ai 13 ans. Et en fait, et là, j'ai vu toute la déception du monde sur son visage. Et il était majeur, il avait 18 ans.
Ah oui,
ouais.
Ouais.
Et là, en fait, alors, c'est marrant parce que sur le coup, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, bon, ça lui plaît pas. Mais moi, j'avais pas vraiment compris pourquoi. Et je sentais, mais vraiment, il était super déçu, en fait. Et mais en revanche, il a été très correct. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on dirait aujourd'hui, hein, il m'a mis un stop direct. Enfin, en même temps, il s'est mis un stop.
Ouais.
Et puis, ça s'est arrêté là. Et d'ailleurs, je les ai, lui, je l'ai pas vraiment recroisé après. Je pense qu'il a tout fait pour m'éviter parce qu'il devait se sentir un peu bête, qu'il y a eu à ce point méprise. Mais en tout cas, les choses se sont bien terminées parce qu'il a été correct. Ça aurait pu finalement assez mal se passer, hein, parce qu'on entend parler de choses tellement glauques au sujet des relations entre des majeurs et des mineurs aujourd'hui. Bien sûr. Mais voilà.
Du coup, tu faisais plus âgé que...
Ouais, je faisais très mature. Et disons que c'est... Bon, il y a eu cette petite histoire. Après, il y en a eu un peu d'autres, mais c'est toujours resté très soft. C'est-à-dire que... Dans la mesure où je faisais plus âgé que mon âge, je me faisais très souvent aborder par des hommes ou des garçons qui étaient évidemment plus âgés que moi.
Et ça, comment ça a impacté justement ta relation au corps, etc. Est-ce que ça a impacté déjà ta relation au corps? Et si ça l'a impacté, comment ça l'a impacté? Le fait de vivre des situations qui étaient peut-être moins vécues par des jeunes filles qui faisaient plus leur âge.
Alors j'avoue que... Ce sujet-là, j'ai pas pu en discuter avec d'autres personnes parce que, je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure, moi j'ai vécu une adolescence très cloisonnée. Mon père avait réussi à mettre autour de la famille une espèce de socle en verre. On ne voyait personne, on ne fréquentait personne. Et mon père avait cette manie, alors encore aujourd'hui, alors je dis avait, je parle au passé parce que ça relève du passé, je précise une chose, c'est que mon père est décédé. Mon père est mort en 2016, il y a quelques années. Et cet événement-là m'a permis de prendre beaucoup de recul sur les choses et aussi d'essayer de comprendre. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse directe, mais ça m'a permis, j'ai essayé un petit peu de comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça. En tout cas, ce que je tire de tout ça, c'est que moi j'ai l'impression que mon père a pris en otage mon adolescence. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que j'étais pas un être humain, enfin, certes j'étais sa fille, mais j'étais surtout son objet. Alors bien sûr, il n'y a jamais eu de violence sexuelle, de choses comme ça, mais mon père avait finalement le droit de décision sur le moindre de mes faits et gestes, mais aussi sur la manière dont moi j'évoluais en tant que jeune femme, en tant qu'adolescente, et aussi sur ma découverte de tout ce qui pouvait être important pour moi, pour l'avenir. Alors ça passait par des violences verbales, psychologiques et aussi physiques, mais aussi par un total dénigrement de moi. Ça a sacrément saboté mon estime de moi, mais en même temps, ce qui était un petit peu curieux, c'est que j'avais une très faible estime de moi-même, mais sans possibilité de me comparer à un élément extérieur, puisqu'il y avait finalement assez peu d'éléments extérieurs. Bien sûr, je fréquentais des gens par l'intermédiaire de l'école, j'étais quand même scolarisée. Au-delà du temps scolaire, il n'y avait pas de temps périscolaire à l'extérieur. C'était tout le temps j'étais tout le temps enfermée dans la cellule intrafamiliale. Donc ouais. Très peu
tu
de...
Tu t'es construit là-dedans.
Ouais. C'est ça. Et ouais. Ce qui fait que quand j'ai pris mon indépendance à l'âge de 18 ans, j'avoue que j'ai eu une période assez courte de découverte de la vie. Mmh. Mais vraiment. Et c'est assez spécial à vivre quand on est grande, enfin quand on est une adulte.
De découverte de toi-même aussi ?
Aussi, oui. Parce que moi, ça impliquait que, par exemple, le début de ma vie sexuelle a été tardif. Parce qu'il n'était pas question pour mon père, en tout cas tant que je vivais sous son toit, pour qu'il y ait quoi que ce soit. Alors bien sûr, entre-temps, je me suis rattrapée, c'est-à-dire que au-delà du fait de rattraper, enfin comment dire, il n'y a pas forcément de timing à mettre dans tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai le sentiment maintenant d'avoir rattrapé la totale méconnaissance, enfin en tout cas tous les acquis que j'aurais dû avoir jeune. Oui, j'ai rattrapé tous ces acquis-là à l'âge adulte, ça c'est sûr.
Et aujourd'hui, tu dis que tu as confiance en toi ?
Ah oui, totalement. Ouais. Oui.
Donc ça a été un chemin finalement assez intense et court en termes de période, dans le sens où c'est vraiment à ta majorité où tu as fait ce cheminement par rapport à toi-même, où tu es allé à la découverte au-delà, voilà, des expériences de toi-même. Est-ce que c'est vraiment cette période-là qui a été charnière concernant justement cette estime de toi et cette confiance ?
Non, c'est venu un peu plus tard. C'est venu un peu plus tard parce que quand j'ai eu comme ça, moi j'appelle ça l'entrée dans le monde, j'ai un peu vécu comme ça. Même je pense que si un jour j'avais le privilège de discuter avec par exemple une personne qui aurait vécu l'emprise dans une secte, j'aurais peut-être des dénominateurs communs sur le ressenti. Parce que des fois j'avoue que j'ai vécu des choses qui relèvent de l'enfermement. Donc c'est, mais quand on est dedans, curieusement, on vit avec.
Ouais.
On vit avec les choses. Alors bien sûr, avec le recul, je me dis mais comment ça a pu se passer, comment j'ai pu me laisser faire, parce que bien sûr j'en ai souvent discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit oui mais moi jamais mon père il m'aurait parlé comme ça, jamais mon père je l'aurais laissé faire telle ou telle chose.
Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mais sauf que... tout ça, et je pense que tu sauras de quoi je parle, quand on est sous emprise, on ne peut rien y faire. Ouais. On parle beaucoup aujourd'hui.
C'est surtout quand on est un enfant. Mmh. Quand on est un enfant face à un adulte, à un moment donné, de toute façon, l'enfant, avant de remettre en question son parent, se remet en question lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça attaque l'estime de soi aussi. C'est parce que si dans la logique des choses, mon parent est censé me protéger, m'aimer, etc., si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'est-ce qui fait que chez moi, ça ne se passe pas comme ça ? Et du coup, je vais d'abord tendance à me remettre en question moi, trouver les causes chez moi avant de les trouver chez mon parent. Et c'est plus tard, en fait, en sortant du cocon, du noyau, etc., qu'on peut s'ouvrir à d'autres questions. Mais
c'est pas normal, entre guillemets, et que ça peut fonctionner autrement.
On peut ressentir que c'est pas normal ce qu'on vit, mais c'est vrai que même si c'est pas normal, le premier réflexe, ça va être d'abord de se remettre en question soi, et d'où l'attaque sur l'estime de soi, puisque l'estime de soi, c'est vraiment la base et la valeur qu'on m'a accordée quand j'étais enfant et qui va me permettre plus tard moi-même de m'accorder de la valeur et donc d'avoir confiance en moi, etc., etc. Mais du coup, tu dis aujourd'hui que t'as confiance en toi et c'est super, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que t'as mis en place dans ta vie et comment tu as fait pour gagner cette confiance en toi, du coup ?
Alors, c'est difficile à dire parce que je pense que les choses, elles se sont articulées, j'en suis maintenant certaine, en prenant le contre-pied de tout ce que j'ai vécu dans l'enfance. Parce que je reviens à ce que t'expliquais sur le rapport entre l'enfant et le parent. En fait, je réalise que très tôt, alors c'est terrible de s'avouer ça, et surtout toi Léa, je sais que t'es un petit garçon, j'ai très vite abandonné la confiance en mes parents. C'est-à-dire que très tôt, mes parents, j'avais de la défiance envers eux. Alors, imaginez-vous de grandir en vous disant je n'ai pas confiance en mes parents parce que je sais que mes parents ne me veulent pas que du bien. Alors, compliqué. Mais surtout, j'ai grandi avec une espèce de truc au fond de moi qui était qu'un jour, cet enfer se terminera, un jour, je serai grande et un jour, je me barrerai et j'arriverai à exister vraiment. C'est-à-dire que j'étais pas... bien sûr, j'avais des périodes où j'étais assez abattue. Je pense même que pendant l'adolescence, j'ai vécu plusieurs fois des phases de dépression. Ça, j'en suis à peu près certaine, maintenant avec le recul. Je suis rentrée d'ailleurs dans l'âge adulte en dépression, parce que je l'ai su, parce que j'étais suivie. Mais je n'avais pas conscience de ce que c'était. Une fois que ça a été pris en charge, c'était très bien. J'avoue aussi... Bon, maintenant, il est décédé, donc on va dire qu'il y a un peu prescription. Des fois c'était tellement compliqué que moi je le reconnais hein, avec le recul. Il m'est arrivé une fois où j'ai clairement réfléchi sérieusement à l'idée d'assassiner mon père, vraiment. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je considérais que finalement les risques que j'encourais, légalement parlant, étaient supérieurs aux bénéfices que je pourrais en tirer. Alors pourtant c'était pas compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mon père étant une personne qui s'alcoolisait beaucoup... Ça me semblait pas très compliqué, enfin, qui s'alcoolisait beaucoup et qui roulait beaucoup, enfin, qui prenait beaucoup la route du fait de son travail. Donc, vous prenez l'un, plus vous prenez l'autre et vous pensez à plein de choses. Mais je l'ai pas fait parce que, quand bien même la situation des fois était très très compliquée, alors c'était tellement compliqué qu'à une époque aussi, j'ai fait une tentative de suicide. Alors, j'étais majeure, j'avais plus de 18 ans. Je me souviens parce que du coup, la prise en charge au niveau de l'hôpital était un petit peu différente. Ça m'a d'ailleurs fait un petit peu de peine. Et mes parents le temps est passé, c'est malheureusement trop tard, j'aurais dû me réveiller un petit peu. J'ai jamais eu accès en fait à mon dossier médical quand j'étais admise aux urgences. Comme j'avais expliqué, à 18 ans, on m'a diagnostiqué une dépression, donc j'étais sous traitement. Et en fait, les pressions psychologiques et la violence de mon père ne s'arrêtaient pas malgré ça. Et un soir, j'étais en grande détresse psychologique. J'ai pris des médicaments en excès et du coup, j'ai fait 4 jours de coma. C'est-à-dire que ça, c'était un samedi soir. J'ai perdu connaissance pendant le dîner. Je me suis réveillée le jeudi suivant.
Il y avait vraiment cette volonté-là d'en finir, ou c'était vraiment un appel au secours, puisque j'entends qu'il y avait ces violences qui perduraient et que
Du souvenir que j'en ai, c'était vraiment l'idée de me dire, alors que je pensais que j'avais franchi la porte de sortie parce que j'étais majeure, c'était toujours pas fini. Parce que c'est ça qui est terrible aussi, c'est que quand même j'étais devenue majeure, au sein de la cellule familiale, j'avais strictement aucune liberté. Mon père, par exemple, bon ça c'est une autre histoire, mais mon père m'a siphonné plus de la moitié de mon épargne, de mon argent personnel. Donc en plus de ça, je me suis un peu... J'étais la grande perdante sur toute la ligne, en fait. Et ça ne s'arrêtait pas. Et à cette époque-là... Non, je pense pas... Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme tel. Hein. L'idée était vraiment d'arrêter. D'arrêter parce que c'était... j'étais arrivée, en tout cas, moi, au bout de mes forces. Et suite à ça... Ce qui est fou, c'est que...
De toute façon, quand quelqu'un décide de mettre fin à ses jours et voilà, fait une tentative de suicide, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de solution. C'est-à-dire que c'est la seule solution qui est trouvée, ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc-là de se dire... en fait, j'ai toutes les solutions testées auparavant m'ont mis en échec. Et quand je suis en permanence dans un échec, au bout d'un moment, je ne vois plus qu'une seule solution et c'est celle-ci. C'est important de dire, voilà, parce qu'il y a beaucoup de clichés aussi qu'on entend hein, sur les passages à l'acte de ce genre, etc. Une personne qui en vient à cette solution-là, c'est bien parce que dans sa tête, elle n'en voit plus aucune et qu'elle a la sensation que c'est sa seule porte de sortie. D'ailleurs, c'est le terme que t'as employé, et à un moment donné, le cerveau, il disjoncte, hein, il vrille, et il y a vraiment ce passage à l'acte-là qui peut être fatal pour certains, et parfois qui permet aussi pour d'autres d'amorcer autre chose derrière, même si c'est pas une solution en soi, bien évidemment. Mais...
Et avec le recul, et surtout aujourd'hui, quand je vois où j'en suis arrivée, je sais pas qui remercier, hein, je suis pas spécialement croyante, mais je suis cependant plutôt spirituelle, mais je me dis qu'il y a une force supérieure qui m'a dit, écoute, c'est pas encore fini, t'as du chemin à faire, donc finalement ça a échoué, je me suis réveillée aux urgences psychiatriques à La Rochelle, et le truc, alors, ça je me suis dit, mais c'est une blague en fait, c'est qu'en fait quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai vue, c'est les yeux de mes parents au-dessus de moi, et là, en fait, mes parents m'ont engueulée. Je me suis dit, ok. Donc j'ai droit à, t'es vraiment une fille indigne, pourquoi tu nous fais ça, c'est la honte, on est obligé de t'emmener aux urgences, enfin bref. Et puis c'est là en fait que je me suis dit, écoute, à quoi ça sert de s'acharner, puisque de toute manière, même quand il s'agit de témoigner de sa détresse, parce que c'est quand même pas rien. Hein. Eux, la seule chose qu'ils ont vue, c'est une espèce d'attaque personnelle. Donc, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai volontairement tout fait pour fuir ma famille, géographiquement parlant. Donc j'ai déménagé, je suis partie. Ensuite, j'ai eu un cheminement de vie. J'ai quelques événements familiaux. Donc quelques années plus tard, je me suis mariée avec une personne absolument incroyable qui est restée mon mari pendant 10 ans. Ensuite, j'ai divorcé. Mon ex-époux et mon meilleur ami. On entretient des rapports absolument sereins. Et puis voilà. Mes parents, mon père n'est plus de ce monde depuis 2016. Il était jeune quand il est décédé. Il avait 55 ans, parce que moi je suis une fille de jeune. Mon père avait 23 ans quand je suis née. Il était né en 61. Ma mère est encore de ce monde, mais on se fréquente plus. Et c'est pareil, ça a été une décision un petit peu lourde de me dire au bout d'un certain temps, bon écoute, ça sert à rien de s'acharner à vouloir à tout prix constituer un schéma familial dit normal, alors que ça ne l'a jamais été. Moi j'ai aucun de mes parents qui un jour m'a manifesté la moindre fierté de ce que j'avais pu faire dans ma vie. Et même quand j'essaye de créer des moments, je dirais, de qualité avec ma mère, ça se passe jamais bien. Donc voilà, je pense qu'il y a définitivement des gens qui sont pas faits pour ça, qu'il faut pas forcer le destin, et que moi aujourd'hui j'ai réussi en tout cas à me trouver un équilibre affectif, émotionnel, dont j'ai toujours rêvé. J'y suis parvenue, j'ai 36 ans et je considère n'avoir plus aucune névrose, et ce qui est très très bien. Bien sûr, je me suis fait accompagner, parce que je pense que ça se fait pas, ça va pas de soi, en tout cas. Et le chemin, il se fait pas seul. Et le sujet de la santé mentale m'importe énormément. Moi, je pense que c'est tout autant, voire plus important de soigner sa santé mentale, en tout cas d'avoir, comme je dis, un médecin du cerveau, et que de se soigner autre, enfin, le corps, en tout cas.
C'est le message, en tout cas, qu'on essaye de faire passer dans ce podcast. C'est primordial, et quand on a des parcours de vie... notamment comme le tien, avec des événements qui ont été difficiles, se faire accompagner, c'est à un moment donné, c'est aussi se choisir et faire le choix de pouvoir avoir des outils et cet accompagnement qui nous permet d'espérer autre chose. Et en fait, ton équilibre, pas forcément familial, mais ton équilibre, en fait, tu te l'es créé.
Bien sûr.
À travers peut-être ton cercle social, ton métier, ton environnement. Tu as construit, en fait, ce que tu avais fui des années auparavant, et je trouve que c'est un beau message aussi d'espoir.
Oui, tu as de sacrées belles ressources, mais chacun a ses propres ressources, et c'est à un moment donné trouver le moyen de les sortir, et bien évidemment de se faire aider, ça peut être salvateur, de poser des mots déjà sur ce qu'on vit, surtout quand on vit des traumatismes, parce que là, clairement... voilà, c'est un vécu assez traumatique, hein. La répétition de la maltraitance, on le sait, c'est terrible, et ça amène à des réflexions sur soi terribles, et à une vision de la vie parfois terrible aussi, quand on est en dépression notamment. Hein. L'avenir est noir, le monde autour de soi est noir, on a une estime de soi au ras des pâquerettes. Mais on peut s'en sortir, mais c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est cette capacité-là à créer autre chose, alors qu'on ne nous a pas donné de quoi créer ces choses-là à la base. Mais parce qu'on a les ressources en soi, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de soi, et aussi de notre capacité à choisir les personnes qui vont nous entourer, et à enlever celles qui nous parasitent et nous prennent de l'énergie, en fait. Hein.
Toi, tu as fait ce choix-là, et souvent, on en parle souvent, il y a cette injonction par rapport à la famille, de devoir, en disant, mais quand même, c'est tes parents, mais peu importe ce qu'ils ont fait, voilà. Et toi, t'as choisi, à un moment donné, de dire, je vois que cette relation-là, elle me fait plus de mal que de bien, elle ne me nourrit pas. Est-ce que ça a été compris, ça, autour de toi, notamment, je pense, par rapport à tes frères et sœurs, ton entourage, est-ce que c'est quelque chose qui a été bien accueilli ou pas forcément ?
Oh, très mal accueilli. Très, très mal accueilli. C'est tellement mal accueilli que finalement, je n'ai plus de rapport avec personne. Finalement, ce qui m'a le plus fait de peine, c'est le fait que ça soit mal accueilli par ma fratrie. Parce qu'au final, on a vécu des choses un peu similaires. Parce qu'on a eu les mêmes parents. Je ne comprendrais pas. Je crois qu'avec le temps passe, et puis chacun ses raisons, finalement.
Chacun a son cheminement.
Chacun a son cheminement. Et chacun ses insécurités aussi. Et ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Moi, j'en ai plus. Et j'ai beaucoup de chance. Hélas, je pense que mon frère et ma sœur ont encore un certain nombre d'insécurités. J'espère pour eux, en tout cas, un jour, qu'ils s'en débarrasseront. parce que le peu de choses que je sais me laisse entrevoir des vies pas forcément toujours très épanouies. Et c'est ça qui est un petit peu triste et dommage. C'est le fait de se dire, voilà, on a chacun un petit peu évolué différemment. Mais que moi, je suis constamment d'ailleurs dans la main tendue, mais que de l'autre côté, les mains ne sont pas tendues et que aujourd'hui, puisqu'on est tous des adultes, on a tous passé l'âge de 30 ans, on est tous trentenaires. Ma sœur, par exemple, a eu un petit garçon que j'ai pas la chance de connaître malheureusement. Ce serait tellement, je dirais, enrichissant pour nous trois de partager nos chemins de vie jusqu'à présent, puisque on grandit sans se côtoyer. Et pourtant, nous sommes frères et sœurs. Mais voilà, c'est un choix.
Tu te protèges, ouais.
Mais je me protège beaucoup. Je me protège beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il y a eu reprise de contact, ça s'est...
Ouais, tu retombes dans des fonctionnements violents qui sont
très, très. Et puis au bout d'un moment, je veux dire, j'ai le cuir solide, mais la communication uniquement par l'insulte, ça va un temps, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus entendable. Et puis j'ai passé l'âge. Surtout, je suis passée à autre chose et aujourd'hui...
Et puis t'as goûté à autre chose aussi.
Et j'ai goûté à autre chose.
Il n'y a rien de pire quand on trouve son équilibre, son cocon, sa base de sécurité, quand on accepte son vécu et qu'on dit bah, en fait ça s'est passé, c'est plus ok, je l'accepterai plus aujourd'hui dans ma vie, de revivre des choses qui nous ramènent à avant, alors qu'on a fait... un travail d'acceptation, etc. Donc,
C'est très très juste. Et tout à l'heure, tu as utilisé une expression que j'aime beaucoup. Je me suis choisie. C'est-à-dire que j'ai choisi de ne vivre que des bons moments. Alors certes, c'est un peu angélique de dire moi aujourd'hui, dans ma vie, je ne fais que ce que je veux. C'est le cas. Je le considère comme un véritable privilège. Parce que c'est ce qui, en tout cas, est mon socle du bonheur. Je me suis choisie et j'ai choisi les personnes avec qui je veux vraiment partager ces moments de bonheur. De ce fait, moi, je considère même que je me suis construit mon village personnel. Les liens du sang, pour moi, sont loin d'être les plus importants. Je suis même plutôt contre cette idée. Je considère que les liens du cœur, finalement, sont oula, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler la famille qu'on s'est construite, ça n'a pas de prix. Moi, ensuite, ça m'a permis de m'interroger aussi sur la notion de maternité et de parentalité, puisque j'ai 36 ans et je n'ai pas d'enfant. Voilà, ça me fait mettre en perspective pas mal de choses. Et surtout, comme tu dis, ça me fait refuser totalement de replonger dans certaines choses que j'ai trop acceptées.
C'est-à-dire t'as posé tes limites.
Oui. Vraiment. Oui. Mais en plus, souvent, il n'y a même pas besoin d'être très... D'ailleurs, souvent, il n'y a même pas besoin de le dire. C'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, les choses, elles sont comme ça.
T'es pas dans la justification. Non, ça, jamais. C'est très important. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je partage complètement cet avis-là. Et souvent, c'est une question qu'on me pose. Voilà, parce que j'ai un peu cette philosophie. Oui. J'ai une anecdote avec ma maman que j'aime bien, qui, elle, a souvent tendance à être dans le don de soi pour les autres, tout le temps, en permanence. Et je l'ai vu enfant, et je crois que j'ai pris un peu le contre-pied de ça, parce qu'au final, je pense qu'il faut savoir trouver l'équilibre entre donner, être dans la générosité et se préserver. Oui. Un jour, on était à l'hôtel toutes les deux, et moi, j'adore les œufs à la coque, mais je n'aime que le jaune de l'œuf à la coque. Et je mange mon œuf à la coque, qui était délicieux, je mange le jaune, je laisse le blanc. Et elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça ? Je dis, bah quoi, pouvoir faire ça, manger un œuf à la coque ? Bah tu peux. Non, mais... pouvoir laisser le blanc et ne même pas se poser la question de se dire est-ce que je suis dans la culpabilité, de me dire mais pourquoi, mais il faut quand même que je le finisse. Et en fait, c'était beaucoup plus grand que ça, en fait, cette réflexion au-delà de l'œuf à la coque. C'était juste de dire aujourd'hui, cet œuf à la coque, que je ne mange le jaune ou que le blanc, ça changera la vie personne sauf de la mienne et de ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, j'ai envie de manger le jaune et je mange le jaune. Et très souvent, on n'a pas besoin de dire ben voilà, aujourd'hui, t'as vu, moi je ne vais manger que le jaune, parce que voilà, et peu importe ce que vous en pensez, ben je ne mangerai. Non, en fait, j'agis comme j'en ai envie, parce que ça ne concerne que moi. Évidemment, on n'est pas là dans un truc complètement anarchiste de dire ben, je fais ce que je veux tout le temps. Non, bien sûr, il y a des règles dans la société, et c'est aussi pour ça qu'on fonctionne ensemble. Mais en tout cas, pour plein de choses de la vie, quand on fonctionne pour soi et que parfois on accepte d'être un peu narcissique, et le narcissisme a été très pointé du doigt et vu de façon péjorative, il y a un très bon livre de Fabrice Midal qui s'appelle Soyez narcissique et sauvez votre peau. Et c'est vraiment.
Soyez égoïste.
Ouais, soyez égoïste aussi. Et c'est cette idée de dire, en fait, quand je me choisis, quand je me considère, quand j'estime que là, j'ai le droit et j'ai la possibilité, et par amour pour moi, je fais ce que j'aime et ce qui me rend heureux, j'ai un réservoir en moi rempli pour pouvoir aussi donner à ceux que j'ai envie de donner. Et d'être dans l'amour et le partage et la générosité. Et c'est sortir de ce pointage du doigt d'égoïste, de dire ah là, tu penses qu'à toi et tout. Mais je pense que si les personnes, si aujourd'hui dans le monde dans le monde, c'est un peu, on parle des grandes idées, mais en tout cas, dans cette société, on accepte d'être un petit peu, pas individualisme dans le sens où chacun pense à soi et qu'on est aigri et qu'on n'est pas capable de sourire à l'autre, mais simplement de se donner un peu d'amour, en fait, et de se dire aujourd'hui, ce que je vis, je suis pas en amour pour moi et j'accepte des choses qui me font du mal et qui sont pas alignées avec voilà, qui je suis, qui j'ai envie d'être, et ça nourrit pas mes valeurs. Et je pense qu'on serait peut-être en capacité aussi d'être un peu plus dans l'ouverture face aux autres.
De toute façon, comme on dit toujours, on ne fait pas rouler une voiture sans carburant. Donc à un moment donné, si t'as pas d'énergie pour toi, t'auras beau essayer d'en donner aux autres, au bout d'un moment, ça va plus le faire. Il y a un moment donné où ça va craquer. C'est bien parce qu'on ne s'écoute pas assez. Parce que là, on dit, ah, tu t'écoutes trop, Calimero. Ouais. T'es nombriliste.
Que... Ouais, au-delà de l'écoute, vraiment, là, tu vois, cette notion d'amour, de comme on prend soin de quelqu'un d'autre, tu vois. Souvent, on ne prend pas soin de soi comme on prend soin de nos amis.
Ou... Oui, mais parce qu'il y a ce truc-là de, ouais, de on s'écoute trop. Quand on prend soin de soi, on s'écoute trop.
C'est alors que,
c'est bien parce qu'on ne s'écoute pas assez qu'on se retrouve en dépression. C'est bien parce qu'on ne s'écoute pas assez qu'on fait un burn-out. C'est bien parce qu'on ne s'écoute pas assez qu'à un moment donné, on se laisse envahir par les autres. Et c'est bien parce qu'on a la sensation que de s'écouter, c'est mal qu'on se justifie. Alors qu'en fait, plus je me justifie, plus je donne à l'autre de quoi avoir du grain à moudre. Ouais, c'est-à-dire que plus tu es dans la justification et plus tu donnes des arguments à la personne en face de toi pour rétorquer. Alors
ça
qu'en fait, on a le droit.
Quand on donne pas de justification, c'est vrai.
Alors que, mais disons qu'on va plutôt donner des explications plutôt que des justifications. Mais une explication qui est tout à fait légitime, c'est je suis pas dispo, je n'ai pas envie, je n'en ai pas besoin. Là, je suis fatiguée. En tout cas, là, j'ai décidé que ce serait pas possible. Enfin, il n'y a pas besoin de plus que ça.
Et on s'autorise peu à verbaliser ce genre de.
Ouais. Mais moi, dans mon cheminement personnel, ces autorisations-là, j'ai pris beaucoup de recul. Je l'ai expliqué, je l'ai évoqué. Quand mon père est mort, en fait, alors moi je l'avoue avec le recul, je le sens et je le sais, ça a été comme un électrochoc parce que c'était totalement inattendu. Et j'avoue que je me suis... Alors c'est drôle parce que les mois qui ont suivi son décès, je suis un peu allée à la recherche de mon père. J'ai questionné beaucoup ses sœurs. J'ai voulu savoir qui il était parce que ça m'intéressait de comprendre. Alors ça c'est la passion de ma vie, comprendre. Pourtant je suis pas scientifique, mais j'adore comprendre. Des fois d'ailleurs je suis tellement entêtée, je veux comprendre les choses et on me dit non mais ça sert à rien de comprendre. Bref, mais au moins ça m'anime, donc c'est le plus important. Et je voulais comprendre, non pas... Alors, ce qui m'intéressait, c'était pas comprendre pourquoi il s'était comporté comme ça avec moi, c'était comprendre quel homme il était pour qu'il se comporte comme ça.
Ouais, pour en arriver là.
Pour en arriver là. Et au final, ce que j'ai trouvé de lui, ses sœurs m'ont parlé d'un père que j'ai pas connu, puisque c'était le père d'avant ma naissance, ses jeunes années quand il était ado, jeune adulte. Et j'ai compris que, au final, tout ce qui m'est arrivé à moi, c'était la résultante d'un millefeuille de frustration. Mon père, fondamentalement, n'était pas un homme heureux. Mon père, sans doute, et je le suppose fort, a regretté son mariage. Mon père a regretté le modèle familial dans lequel il s'était malheureusement enfermé. Et ça ne répondait pas à ses rêves de jeunesse, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, donc je crois que je comprends. C'est-à-dire que la frustration intérieure devait être telle qu'en fait, il fallait bien finalement un punching ball sur lequel taper. Hélas, alors c'est pas pour
ça ne justifie pas. Ouais.
Ça ne justifie pas, mais ça permet de comprendre. Ça permet de comprendre aussi la mécanique des violences. Souvent, quand on est un parent violent, on a été un enfant
violenté
à géométrie variable. Ou en tout cas, on est un adulte frustré, ça c'est sûr. Et comprendre ça, ça m'a permis... Pas de me libérer parce que je me sentais pas enfermée, parce que le temps avait passé. J'avais quitté le cocon familial depuis longtemps. Mais là, je me suis dit, eh bien, finalement, j'ai pas envie d'avoir cette destinée. J'ai pas envie de me laisser enfermer dans des choses qui ne me conviennent pas. J'ai envie de vraiment vivre ma vie. Et peut-être que finalement, son décès précoce et le fait que ça nous a empêchés, hélas, de pouvoir vraiment nous expliquer, parce que peut-être qu'un jour ou l'autre, ça se serait produit. Au moins, j'ai gagné ça. C'est-à-dire que j'ai gagné une espèce de leçon de vie et j'ai gagné le fait de pouvoir dire au moins, finalement au moins, tout ce qui m'arrivait aura eu une chose extrêmement positive, c'est que j'ai réussi à devenir peut-être la femme que j'ai toujours voulu être au fond de moi et qu'il y a eu énormément d'épreuves, mais ça s'est quand même produit parce que, j'irais par effet négatif, un peu comme en photographie, mon père m'a transmis, sans le savoir, une leçon de vie. Il le sait pas, hein. Il le saura jamais, mais son départ et tous les questionnements chez moi que ça induit m'ont conduite à ça.
Vu tout le cheminement que tu as fait et là où tu en as aujourd'hui, le fait que tu aies confiance en toi, le fait qu'aujourd'hui tu aies trouvé ton équilibre, enfin, y a beaucoup de choses que tu as du coup accompli, mis en place pour toi parce que tu t'es choisie. Qu'est-ce que tu te dirais à la femme que tu étais il y a 15 ans? Tu lui dirais quoi, cette femme-là?
Je lui dirais, d'une part, serre les dents. Alors c'est horrible, hein. Serre les dents, sois patiente, un jour ça ira vraiment mieux. Voilà. Mmh. Parce que j'ai toujours eu une espèce de comment dire... Alors je pense que la résilience, je l'ai eue, mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Hein. Mais j'ai cette faculté à encaisser les choses et très vite à les digérer. Alors des fois, j'avoue que moi-même, ça me surprend. Hein. Des fois, j'en arrive même à me questionner sur la manière de ressentir les émotions. Mais je ne pense pas qu'il y ait de ça. Je pense que c'est un mécanisme, en fait. C'est-à-dire que voilà, bah, je tombe, je me relève, allez, on continue, quoi. C'est pas si, enfin, du moins, c'est pas si grave. Alors, évidemment, il y a des événements beaucoup plus importants que d'autres. Mais je m'arrête jamais sur une difficulté.
Parce que je pense que tu as déjà vécu le pire, là.
Ah oui, oui.
Enfin, en tout cas, dans l'histoire de ta vie, je veux dire, comparé à quelqu'un d'autre ou quoi, mais là, que tu as vécu ta enfance.
Mais c'est vrai que ça, c'est souvent des choses que je me dis à moi-même. Alors évidemment, je dis pas. C'est pas des choses que je partage avec les gens autour, parce que pour comprendre, il faut connaître mon passé, ce que j'ai vécu. Mais souvent à moi-même, je me dis, oh, bon, c'est bon, t'as connu pire. Clairement, mais je passe mon temps à me le dire, hein, surtout quand j'ai des tuiles, trucs pas très importants. Bon,
attention à pas dénier son ressenti, parce que du coup, il n'y a pas d'hiérarchie de la souffrance, et il n'y a pas on peut se sentir très mal même dans un moment où, a priori, bon, bah, c'est pas aussi pire que, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire faire comme si ce que je ressentais... je ne le ressens pas parce que de mon point de vue, j'ai vécu pire.
Ah non, pas du tout. Ah non, parce que d'ailleurs, sur une échelle très récente, d'ailleurs, j'ai consacré un article de blog parce que j'ai parlé de santé mentale. Là, fin 2021, second semestre, j'ai eu un épisode dépressif. Je l'ai identifié très vite parce que c'est des choses, quand on les a vécues une fois, on les reconnaît. J'ai pas attendu, hein. Je suis allée voir médecin généraliste couplé avec ma thérapeute. Et puis parce qu'il était pour moi impossible que je m'enfonce dans quelque chose qui...
Mais c'est les bons réflexes. Enfin, oui,
complètement.
C'est ok d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Fin...
Non, mais t'as réagi. Oui, c'est le...
Mais disons que quand on arrive à reconnaître les troubles, et je pense que ça, justement, ça, c'est possible quand on a une profonde connaissance de soi. Quand on reconnaît les troubles, même des choses très légères, hein. Moi pour le coup là ça s'est produit, alors c'est marrant parce que pendant une semaine j'étais en mode bad mood, mais c'était inhabituel et je me suis dit, ah, il y a quelque chose. C'est deux visites chez ma thérapeute et chez le médecin généraliste qui m'ont fait confirmer qu'effectivement il y avait un petit syndrome dépressif qui s'était installé, et c'était consécutif à une rupture. J'ai presque envie de dire c'est normal entre guillemets, mais ce qui était, enfin disons que je ne m'attendais pas à ce que ça soit un peu comme une secousse tellurique, hein, comme pour les séismes. C'est venu pas tout de suite, mais c'est venu un petit peu après. Et bon, je pense qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont un petit peu télescopés. Plus aussi, parce que ça c'est une évidence, la faim et une espèce d'essoufflement à l'issue de deux années de crise sanitaire.
Ouais, ça, on a tout
et voilà. Donc non, il fallait en tout cas faire quelque chose parce que sinon, le début de 2022 aurait été compliqué à gérer. Mais ça va, merveilleusement.
C'est les bons réflexes. Je pense les bons réflexes. Et je pense qu'on peut retenir de tout cet épisode que on peut avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Oh, on peut se faire aider pour l'avoir.
Trouver les ressources.
Trouver les ressources en soi et à l'extérieur. Et voilà, décider de l'environnement qu'on...
Ouais,
qu'on veut
prendre les rênes de sa vie.
C'est pas simple, c'est jamais simple, parce que si c'était simple on n'en parlerait pas. Ça demande du travail, ça demande des fois de se dépasser et d'accepter aussi que on soit pas bien, mais c'est possible.
C'est le beau message. Merci beaucoup Alexandra pour,
avec plaisir,
pour cet échange.
Merci beaucoup.
On espère que ça vous aura inspiré et nous on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Vous retrouverez tous les réseaux d'Alexandra si vous souhaitez la suivre sur son blog et partout ailleurs, en information de ce podcast. Et nous, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode.
À bientôt.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.